Tout genre s'élevait au-dessus de la route, brûlant à petit feu. On voyait des enfants crapahuter au flanc des monticules infects pour fouiller les ordures. Le conducteur devait faire attention aux charognards, humains loqueteux ou spécimens canins. L'odeur charriée par la fumée donnait des hauts le cœur aux jeunes missionnaires américains. « Où sommes-nous ? On croirait voir l'Hadès et le sentir aussi. À quel terrible rite de passage ces malheureux enfants se livrent-ils ici » demanda-t-il non sans grandiloquence. Comment allons-nous supporter ce doux dingue ? Songeait frère Pépé. Ses bonnes intentions n'impressionneront personne à Huachaca. Mais il lui expliqua simplement. C'est la décharge publique. Cette odeur provient de l'incinération des chiens morts, entre autres. Notre mission nous a fait connaître deux enfants qui fouillent les ordures, les pepenadores, les charognards, comme on dit. Des récupérateurs. Des récupérateurs ? S'écria Edward Bonshaw. « Ce sont les niños de la basura, » dit Pépé tout bas, soucieux de faire la nuance entre les chiens et les enfants fouilleurs de décharge. C'est alors qu'un gosse crasseux d'âge indécis, un gosse de la décharge de toute évidence, on le voyait à ses bottes trop grandes pour lui, balança un petit chien frissonnant par la fenêtre passager de la Volkswagen. « Non, merci, » déclina poliment Edward Bonshaw. Plus à l'intention du chiot puant qu'à celle du gamin qui lui déclara tout à trac qu'il lui faisait cadeau de cette créature famélique. Les gamins de la décharge ne mendiaient pas. « Ne touche pas ce chien !» lui cria Pépé en espagnol. « Tu risques de te faire mordre !»« Je sais ce que c'est que la rage !» cria le gosse crasseux en reprenant le chien tout recroquevillé. « Je suis au courant pour les vaccins !»« Quelle belle langue !» s'extasia Bonshaw. « Seigneur Dieu, notre séminariste n'entend pas un mot d'espagnol, » en conclut Pépé. Une pellicule de cendre recouvrait le pare-brise de la Volkswagen, et il s'aperçut que les essuie-glaces ne faisaient qu'en étaler une bouillie, lui obscurcissant encore plus la route qui quittait le Basurero. Obligé de sortir de sa voiture pour nettoyer la vitre avec un vieux chiffon, il en vint à parler au missionnaire de Juan Diego, le jeune lecteur de la décharge. Peut-être aurait-il dû en dire un peu plus sur Loupé, la petite sœur, en particulier sur la capacité qu'elle semblait avoir de lire dans les pensées, et sur l'idiome incompréhensible qui était le sien. Mais en indécrottable optimiste qu'il était, il avait tendance à se polariser sur les choses simples et positives. La petite Loupé avait quelque chose d'inquiétant, alors que Juan Diego était une pure merveille. Aucune contradiction dans le fait que ce gamin de 14 ans, né et élevé dans le Basurero, ait appris à lire tout seul dans deux langues de surcroît. « Merci, mon Dieu !» s'exclama Edward Bonshaw quand ils se remirent en route dans la bonne direction cette fois, cap sur Huachaca. « Merci de quoi ?» se demandait Pépé tandis que le jeune Américain poursuivait sa prière vibrante. « Merci de me permettre cette immersion totale là où ma présence est la plus nécessaire. » « Mais nous sommes sur la décharge publique, » objecta Pépé. « Ces enfants ne sont nullement livrés à eux-mêmes, croyez-moi, Edward. Votre présence n'est pas nécessaire dans le Basurero. »« Eduardo ?» rectifia le jeune Américain. « Si, Eduardo !» articula Pépé. Des années durant, il s'était trouvé seul pour tenir tête au père Alfonso et au père Octavio, qui, plus âgé et plus calé que lui en théologie, lui donnait parfois le sentiment d'être un traître à la foi catholique, un humaniste laïcard enragé, voire pire, une gageure pour les jésuites. Il connaissait sur le bout des doigts leur dogme catholique. Ses deux aînés étaient d'incurables doctrinaires. Leur conversation tournait en rond, et il avait l'amère impression d'être un croyant médiocre. En Edward Bonshaw, Pépé venait peut-être de trouver un adversaire à leur mesure, un preux chevalier un peu fou, capable de contester la nature même de la mission de los niños perdidos. Il venait de remercier le Seigneur de lui avoir permis une immersion totale pour sauver ses deux gosses de la décharge. Se figurait-il sérieusement qu'ils étaient candidats au sauvetage ? Pardonnez-moi de ne pas vous avoir accueilli comme il faut, Seigneur Eduardo. Lo siento. « Bienvenido !» lui déclara-t-il avec admiration. « Gracias !» s'écria le zélote. À travers le pare-brise maculé de cendres, sur le rond-point, devant eux, ils virent tous deux un petit obstacle que les voitures évitaient. « Un accident ?» demanda Edward Bonshaw. Un contingent de chiens et de corbeaux querelleurs se disputait une dépouille invisible. Comme la Volkswagen approchait, Frère Pépé klaxonna. Les corbeaux s'envolèrent, les chiens s'éparpillèrent. Il ne resta plus qu'une auréole de sang sur le macadam. La victime, si c'était bien son sang qu'on voyait, avait disparu. Les chiens et les corbeaux l'ont mangé, constata Edward Banshaw. Le voilà qui enfonce une fois de plus les portes ouvertes, pensa Frère Pépé. Mais c'est alors que Juan Diego parla et se réveilla aussitôt de son long sommeil et de son prétendu rêve, de ses souvenirs qui lui manquaient depuis que les bêta-bloquants lui avaient volé son enfance et sa prime adolescence. Non, il n'y a pas eu d'accident de la route, c'est mon sang. Il a coulé du pick-up de Rivera. Diablo ne l'a pas léché jusqu'à la dernière goutte. Vous écriviez? Lui demanda Myriam, la mère impérieuse. Quelle histoire macabre! Commenta Dorothy, sa fille. Leurs deux visages, rien moins qu'angéliques, étaient penchés sur Juan Diego. Il découvrit que mère et fille étaient passées aux toilettes et s'étaient brossées les dents. Contrairement à lui, elles avaient la laine fraîche. Les hôtesses s'affairaient ostensiblement dans la cabine de première classe. Le vol Cathay Pacific 841 amorçait sa descente sur Hong Kong. Un parfum étranger mais agréable flottait, très loin des relents du Basudero. Nous allions vous réveiller quand vous avez ouvert les yeux, dit Myriam. Vous auriez tort de rater les muffins au thé vert, ajouta la fille. Ils valent une bonne baise. Tu n'as que la baise à la bouche, Dorothy, gronda Myriam. Juan Diego, conscient de sa mauvaise haleine, leur adressa un demi-sourire contraint, lèvres closes. Il se remémorait petit à petit où il était et qui étaient ces deux jolies femmes. Ah oui, il avait zappé ses bêta-bloquants. Pendant un bref instant, il avait pu rentrer chez lui. Il en éprouvait une nostalgie intense. Allons bon, qu'est-ce qui se passait? Voilà qu'il bandait dans son ridicule pyjama de la Cathay Pacific qui lui donnait l'air d'un clown. Lui qui n'avait même pas pris une demi-pilule de Viagra, ces fameux cachets bleu-vert partis avec les bêta-bloquants dans la valise enregistrée. Il venait de dormir plus de 15 heures d'affilée, sur un vol de 16 heures et 10 minutes. Il se dirigea vers les toilettes d'un pas sensiblement plus vif et plus léger malgré sa claudication. Ses anges autopromus, et pas tout à fait gardiens, le couvert du regard. Il est trop chou, non? Demanda la mère. Si, si, il est mimi, répondit la fille. Il peut remercier le bon Dieu de nous avoir trouvés. Il serait complètement perdu sans nous, observa la mère. Il peut remercier le bon Dieu, répéta Dorothy. L'allusion à un bon Dieu ne sortait pas avec naturel de ses lèvres ultra pulpeuses. Il écrivait, je crois, tu te rends compte? Écrire en dormant, s'exclama Myriam. Il était question du sang qui goûtait d'un camion. Diablo, ça veut dire diable, non? Hein? Demanda Dorothy à sa mère qui haussa les épaules pour toute réponse. Franchement, Dorothy, tu exagères avec ces muffins au thé vert. Il n'y a pas de quoi en faire un roman, bon sang. Ça ne risque pas d'apporter le même plaisir que le sexe. Dorothy leva les yeux au ciel et soupira. Assise ou debout, elle avait toujours l'air un peu avachie. À vrai dire, on l'imaginait surtout en position horizontale. Juan Diego sortit des toilettes en souriant à ces deux femmes si avenantes. Il avait réussi à s'extirper du pyjama de bord qu'il tendit à une hôtesse. Il avait hâte de goûter aux muffins, même si son impatience n'atteignait pas celle de Dorothy. Son érection avait un peu diminué, il le sentait très bien. Elle lui manquait du reste, ses érections. En temps normal, il lui fallait un demi-viagra pour bander, mais pas aujourd'hui. Son pied infirme palpitait toujours un peu au réveil, or là, il palpitait différemment. En tout cas, c'est ce qu'il se figurait. Car dans sa tête, il avait 14 ans, et le pick-up de Rivera venait de lui écraser le pied droit. Il sentait la tiédeur des cuisses de Loupé contre son cou et sa nuque. Sur le pare-brise, la petite Vierge de Guadeloupe se trémoussait dans tous les sens, avec cette invite muette et pas tout à fait consciente. Cette invite que lui faisaient maintenant Myriam et Dorothy, sans même avoir besoin de se trémousser. Mais l'écrivain ne soufflait mot. Il serrait les dents, les lèvres, comme s'il s'efforçait encore de ne pas hurler de douleur en roulant la tête sur les genoux de sa sœur, disparue depuis des lustres.